C'est une collection impressionnante. Vous avez ici quelques éditions extrêmement rares.
Sa bibliothèque était tout son univers.
Je comprends ça.
Vous êtes un privilégié. Il arrive à bien peu de gens d'entrer ici. C'est ma collection privée. Certains bibliophiles collectionnent les romans du 19e, d'autres les livres d'heures. Toutes mes éditions rares, elles, ont le même protagoniste. Le diable.
Je peux jeter un coup d'œil?
Oui. C'est pour ça que je vous ai amené ici. Magnifique, n'est-ce pas? Cette tendre patine, ces superbes dorures. Sans parler des siècles de sagesse qu'ils contiennent, je connais des gens qui tueraient pour une collection comme celle-là. Vous ne verrez nulle part au monde autant d'ouvrages sur le sujet que j'en ai réunis ici. Ce sont les plus rares, les plus choisis des éditions qui existent, et il m'aura fallu une vie entière pour les rassembler. Seul le suprême chef-d'œuvre manquait. Venez.
Ces hommes se sont lancés dans un périple héroïque en bravant les pires conditions qu'on puisse imaginer. La question n'est pas arriveront-ils à temps, mais arriveront-ils...
Notre expédition est arrivée avant le début de l'été arctique. Voici notre camp.
Ouais, on a trouvé notre camp!
J'ai été désigné pour vous servir d'assistant et de guide pour l'expédition.
Ravi de vous rencontrer.
Bienvenue,
je vois.
Ne t'arrête pas!
Vous restez combien de temps?
Environ 6 mois, si tout va bien. Ici, on a de la chance.
C'est long.
Pose un problème.
Non, je veux dire que je serai là autant de temps que durera votre expédition, vous voyez. Il est donc dans mon intérêt de vous aider à la réussir. Mon chien.
Bravo! Bravo à tous! Vous aurez des gamelles bien remplies à bon feu ce soir. Allez!
Bonjour, bonsoir, salutations à toutes et tous et bienvenue. C'est Bouquin Bouquine, l'émission des livres et de ceux qui les dévorent. C'est Flo derrière le micro, c'est sur Gravity, votre fournisseur de bonnes ondes, chaque dernier mardi du mois, 22h. Toutes les infos à retrouver sur les réseaux, avec la page Facebook Bouquin Bouquine et sur Twitter X et Blue Sky et un peu Mastodon. Un podcast à retrouver partout. Par la suite, après la diffusion, sur votre moteur de recherche, tout simplement, Bouquin Bouquine, à écouter sur Castopod, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, entre autres. Cette semaine, une émission glaciale, avec le livre « Quand on eut mangé le dernier chien » de Justine Liogret, 1912. Trois scientifiques et 17 chiens partent en expédition dans l'immensité des terres glaciales de l'Antarctique afin de cartographier l'Est lointain. Ce roman saisissant raconte la véritable histoire de ces aventuriers courageux qui ont vécu dans des conditions extrêmes, inhumaines, et qui n'ont pas été épargnés par les épreuves. Inoubliable et magnifique. Quatrième de couverture. « Quand on eut mangé le dernier chien » de Justine Liogret aux éditions Au Diable Vauvert. Il n'existait pas de mots pour en parler. puisque les mots étaient une façon de communiquer entre les hommes et que le Sud était par essence totalement inhumain. Il s'agissait d'une vie étrangère, une vie de glace, de minéraux et de vent. C'était un voyage au bout duquel il n'y avait rien. On ne pouvait se risquer dans cet espace que pour un court instant, et on savait que l'on marchait non pas dans la mort, car la mort est une action, un fait, mais plus exactement dans un endroit où il était impossible de vivre.
Allez !
Vous avez vu les nuages qui menacent à l'horizon ?
Oui, mais ce qui nous attend ne sera peut-être pas aussi terrible que ça en a l'air.
Ça va être terrible.
À quel point ?
Je ne pense pas qu'on ait connu pire.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?
J'ai jamais vu un ciel aussi menaçant, et le baromètre chute très vite. De manière exceptionnelle, mais...
Mais quoi ?
Là, j'ai compris que ce ne serait pas une tempête comme les autres.
Moi, en revanche, j'ai du mal à comprendre. Je ne comprends toujours pas, désolé.
Quand un animal renonce à sa nature profonde et va se mettre à l'abri parce qu'il a peur de la tempête qu'il sent arriver, les hommes peuvent aussi avoir peur.
D'accord, je vois.
Dans de telles conditions, aller et revenir prendrait combien de temps ?
Faudrait déjà pouvoir y aller.
C'est terrible. C'est
pour l'instant, on attend.
Récit de survie d'une puissance folle, où quand on eut mangé le dernier chien, se base sur l'histoire tragique de l'expédition Aurora, entre 1911 et 1912. Écriture immersive, ciselée, précise, où chaque mot est à sa place. Vision hallucinatoire, horreur organique, servent un roman d'aventure hors du commun, sur un continent qui a tout de l'enfer sur Terre. Cruellement marquant.
La piste est fatigante.
J'ai connu plus difficile.
Le voilier à vapeur Aurora a été construit en 1876 par le chantier naval Alexander Stephen & Sons de Glasgow, en Écosse, pour le compte de la compagnie Dundee de chasse aux phoques et baleines. Il fut d'abord utilisé dans les mers du Nord et sa construction lui permit de résister aux mauvais temps et aux glaces fréquentes dans ses parages. Cette solidité devait par la suite lui permettre de participer à des expéditions variées autour du globe. De 1876 à 1910, l'Aurora fit chaque année le voyage de Glasgow à Saint-Jean, Terre-Neuve, Canada, pour chasser le phoque et la baleine dans les eaux arctiques. Durant cette période, il connut quelques péripéties remarquables. En 1884, l'Aurora tenta sans succès de sauver l'expédition Guilly, pour toucher l'argent de la récompense. Et en 1891, le navire receva l'équipage du Polignac, dont le bateau avait été coulé par les glaces. En 1910, le navire fut acheté par le géologue Douglas Mawson pour son expédition antarctique australasienne. L'Aurora transporta l'expédition en décembre 1911 d'Hobart, en Tasmanie, jusqu'à l'île Macquarie, qui avait été choisi comme base arrière des opérations de Mawson. Une fois la base installée, l'expédition reprit la mer pour la baie du Commonwealth, en Antarctique, qu'elle atteignit le 7 janvier 1912. Le bateau débarqua Mawson et son équipe à Cap Denison, et l'équipage participa à la construction de la cabane de Mawson, où l'expédition devait hiverner. Puis, l'Aurora reprit la route pour Hobart pour ne pas être piégée par la banquise durant l'hiver. en décembre 1912. L'Aurora revint rechercher les membres de l'expédition, mais elle découvrit que Douglas Mawson, Xavier Mertz et Belgrave Ninnis étaient partis en expédition en traîneau et n'étaient toujours pas revenus. Le capitaine attendit leur retour, mais le mouillage de mauvaise qualité et les vents extrêmement violents entraînèrent la rupture de la chaîne d'ancre. Fin janvier, le navire dut abandonner l'expédition pour ne pas être bloqué pour l'hiver par les glaces. L'Aurora laissa à terre une équipe de 6 hommes avec d'amples provisions, puis prit le large. Mawson, seul survivant de l'expédition en traîneau, arriva juste à temps pour voir l'Aurora disparaître à l'horizon. L'Aurora revint dans la baie du Commonwealth le 12 décembre 1913, où il récupéra les 7 hommes et retourna en Australie.
On va passer.
Météo était juste. J'en ai eu la preuve en venant jusqu'ici. Le vent m'a empêché d'avancer à plusieurs reprises. Il faut y aller en traîneau et très vite.
Il va falloir manœuvrer intelligemment. Tu feras le voyage dans le traîneau chaque fois que je te le dirai. Tu n'essaieras pas de m'échapper, tu obéiras sans discuter. Tu crois que tu vas y arriver, mon père ?
Chaque mot porte son poids d'encre. Et comme une mesure astreinte de chaque sac, chaque équipement emporté, chaque encombrement, Justine Niaugré se limite, se tient à la ligne, efficacement avec économie du mot, avec rigueur. Ainsi, l'une des originalités judicieuses de ce roman est de titrer les chapitres par le nombre restant des chiens qui traînent, qui portent le traîneau de cette aventureuse expédition. Et c'est alors que le premier chapitre de ce livre s'intitule 17.
Prêt ? Allez, allez ! Bon chien !
Hors de la tente, un des chiens se mit à hurler. On ne pouvait guère entendre son cri, mais on le ressentait, dans la chair. Une vibration organique, vivante, au milieu des rugissements de vent si durs qu'ils en devenaient minéraux. Mertz se mit à rire. Il était brun, petit, physique. Il avait une présence d'ours au milieu de la tente et de la neige. Une présence chaude, réelle. Dans ce désert de glace, il avait une matérialité non négligeable. Quelque chose de posé, quelque chose qui existait malgré les centaines de kilomètres de banquise s'étendant autour de la petite tente. Mertz se mit à rire donc, et Ninnis rit à son tour, parce qu'il savait ce qui allait suivre. Ninnis était très jeune, comme seuls savent l'être les Anglais à 25 ans. Encore blond d'enfance, délicat et tendre. On aurait dit une poupée de porcelaine, et si on lui avait retiré ses vêtements, On se serait attendu à voir, aux articulations de ses coudes et de ses genoux, de jolies cordelettes tenant les différentes parties de son corps en pattes de verre. « C'est la chienne !» expliqua Mertz à Mawson. « Elle n'est pas contente !»«
Il me semble que je n'ai jamais vu la chienne être contente !» répondit Mawson.
Mawson était, lui, aussi fantasque qu'une expérience scientifique. Il était géologue, et cette description se suffisait sans doute à elle-même, si on y ajoutait qu'il était anglais.
« Mais pourquoi n'est-elle pas contente, d'ailleurs ?»
demanda Mawson. Mertz et Ninis échangèrent le regard des jeunes mères lorsqu'on leur pose une question d'une incroyable sottise sur les nouveau-nés. Mertz et Ninis s'occupaient des chiens depuis des mois. Ils les connaissaient comme on connaît sa maison et son domaine, sa poche et sa chambre.
« Elle attend sa portée, Douglas !»
répondit Ninis à Mawson avec un sourire.
« Je ne suis pas certain que cet état explique toute sa mauvaise humeur !» répondit Mawson.
Mertz et Ninis rirent encore.
« Mawson !» ajouta Mertz. « Je me garderai bien de dire à la chienne ce qu'elle doit penser. Je ne suis pas aussi brave que vous !»
Ce fut au tour de Mawson de rire, ou de sourire en coin, ce qui chez lui revenait presque au même. Mertz posa le poing sur la toile de tente. Même ici, dans la toute relative chaleur du petit poêle Primus allumé, les trois hommes ne retiraient, au mieux, qu'une couche de vêtements, et Mertz portait encore ses mitaines et ses gants. Ses moufles pendaient au bout du cordon passé dans les manches de son manteau du dessus. Mawson connaissait par cœur ce geste qu'il faisait lui aussi. Poser le poing sur la toile de tente, tâter le vent, sentir ses coups de boutoir déchirants. Mawson avait croisé des tempêtes, aussi bien sur terre que sur mer. Elles restaient toujours à une certaine échelle humaine. On pouvait imaginer la volonté d'un dieu ou d'une déesse s'en prenant aux hommes et à leur construction, voulant leur faire revenir en bouche le goût de la boue des débuts du monde. Il y avait de la sauvagerie, mais une sauvagerie que l'on pouvait appréhender. Ici, c'était autre chose. Ici, le vent dansait à sa façon et rien, absolument rien ne savait danser avec lui. Rien, à part peut-être la chienne.
« Je sors !»
fit Mertz. Il ne semblait pas inquiet, mais soudain, très sérieux. Ninis renfilait déjà ses moufles et Mawson tirait sur les cordons de sa capuche. Tous savaient ce qu'il deviendrait sans les chiens. Les bêtes étaient vitales, et à l'expédition, et plus simplement aux trois hommes. Les chiens tiraient les traîneaux, et sur les traîneaux se trouvait la nourriture, et les outils, et les médicaments. Ici, à l'extrémité sud de la terre, il n'y avait rien. Ni plantes, ni animaux, ni refuge, ni même de pluie. Rien à manger ou à boire, à part la glace ou ceux qui se trouvaient sur les traîneaux. Absolument rien. Ninis ouvrit le boyau de peau et de laine qui bouchait l'entrée de la tente et Mawson baissa la tête pour profiter encore un instant de la lumière presque verte du petit poêle. L'homme savait déjà ce qu'il allait voir et il n'était pas pressé. Mawson tenait des journaux avec une régularité de moine et il y avait écrit que la banquise ressemblait à un crépuscule de fin du monde. Il avait raillé ces mots presque rageusement, les trouvant justes mais minuscules. Il ne contenait rien. Il ne disait pas la vérité. Il fallait ramper pour sortir de la tente. Et une fois dehors, les trois hommes restèrent à quatre pattes. De toute façon, ce soir, le vent les aurait fait tomber. Ils étaient trois, mais étaient seuls. S'ils avaient tendu la main, ils se seraient touchés, bien entendu. Mais ils ne s'entendaient plus. Ils ne se voyaient plus. Le vent les brutalisait, si puissant qu'il en possédait une masse, une réalité qu'on aurait cru pouvoir saisir comme une corde, une brique. Ici, le blizzard était une matière, plus réelle encore que la neige et la glace. Mawson se souvenait de ses baignades, enfant, en Angleterre, le moment où l'eau glacée saisit le torse, le moment où l'on suffoque, le moment de cette respiration arrêtée, suspendue, douloureuse. À l'époque, il pensait que c'était cela, l'essence du froid. Mais il avait changé d'avis depuis. Mawson leva les yeux. Tout baignait dans un crépuscule pâteux, une lumière collante, grise. Le ciel et la neige se fondaient l'un dans l'autre,
sans démarcation. Devant les trois hommes, à genoux, une seule figure sortait de tout ce fade. À contre-jour, celle d'une chienne, plus velue qu'un ours, montée sur un monticule de neige gelée, dressée face au vent et hurlant tout autant qu'il hurlait lui. C'était une danse entre les deux, qu'on aurait pu voir, sous d'autres latitudes, entre une libellule et un roseau. Mais ici, toute la poésie en avait été changée en roc, en brutalité, en basalte, en morsure. La chienne était prise dans la lumière baveuse des étoiles présentes, couleur de fer, si dense et musclée qu'on ne pouvait pas deviner qu'elle tendait sa portée. Les 16 autres chiens s'étaient enterrés sous la neige. Si le temps avait été plus clément, les hommes auraient vu, par les petites cheminées de glace, monter les fumerolles de leur souffle, granuleuses de cristaux.
Alors toi,
elle va bien, fit Mertz. Mawson entendait la chienne malgré le vent. Il se détourna, rampa pour regarder la tente. Et les deux autres hommes firent de même. Ils se glissèrent dans la bouche de la tente, dans sa lumière à l'odeur étouffante de kérosène, et refermèrent le boyau derrière eux. Ils restèrent silencieux en retirant leurs vêtements du dessus pour les mettre à sécher. Ils restèrent silencieux en se glissant dans leur sac de couchage en peau de renne. Ils restèrent silencieux alors que le vent cognait contre la tente et faisait plier les arceaux de bambou. Ce fut Ninis qui parla en premier. Avec un petit rire, il fit.
Il ne faisait pas si mauvais ce soir.
Vous avez raison, Belgrave.
Il ne faisait pas si mauvais,
répondit Mertz. Le lendemain matin, il faisait beau. Un temps clair et sec, assez pour que les trois hommes retournent leurs sacs de couchage pour les mettre à sécher sur les traîneaux. On aurait eu du mal à le deviner, mais ici, la sueur était un ennemi acharné. Tout se détrempait en permanence et les matières pourrissaient. La laine restait relativement indemne, mais le cuir, les fourrures et les peaux au contact de la moiteur et de l'humidité des chairs reprenaient leur cycle naturel de pourrissement cadavérique. Les sacs de couchage étaient vite changés en charogne, ainsi que les bottes et les pantalons de phoque. Les vêtements devaient être imperméables au vent et, de fait, l'étaient aussi à l'eau. La sueur restait dans cette bulle et y moisissait à son aise. Les trois hommes profitèrent donc de l'air sec pour faire respirer leur couverture. L'expédition était composée des trois hommes, Mawson, Ninis et Mertz, de 17 chiens et de 2 traîneaux. Les explorateurs se répartissaient les tâches, guider les bêtes, ouvrir la route à ski ou, enfin, se reposer sur le traîneau de queue. L'affaire, sur le papier, présentait une facilité déconcertante. Les trois s'étaient entraînés durant des mois et Mawson avait choisi ses 2 compagnons parmi les milliers d'autres volontaires revenus des 4 coins du monde. Personne n'aurait pu mettre en doute leur motivation et leurs compétences. De plus, Ninis et Mawson étaient d'excellents skieurs. Mais Mertz poussait la compétence jusqu'à avoir escaladé les sommets des Alpes et avoir compté parmi les champions de ski suisses. C'était lui qui, ce matin, ouvrait la marche, et Mawson discernait très nettement, au loin, sa petite silhouette noire glissée sur la surface de la banquise. Mawson vit aussi, malgré l'épaisse couche de vêtements et la distance, s'affaisser les épaules du skieur. Mawson chuchota pour lui-même. « Ça se trougit !» Mertz se tournait déjà vers les traîneaux et criait
« Ça se trougit !»
Les sastrougies étaient une mauvaise nouvelle. La promesse d'heures exténuantes attirait les traîneaux aux côtés des chiens. Mawson ouvrait déjà la bouche pour faire part de sa déception à Ninis, mais se retint. Il secoua la tête comme pour changer d'humeur et parvint à lancer d'un ton léger au lieutenant.
« Nous avons déjà bien avancé ce matin, et les sacs de couchage sont secs. Que pouvions-nous demander de plus ?»
Ninis sourit, aussi serein que s'il était à un pique-nique de printemps.
Avoir déjà passé, et une poignée d'heures, et ce champ de sastrogie. Avoir monté la tente et tenir une tasse de thé entre nos mains.
Et Mawson, cette fois-ci, rit franchement.
Je ne saurais mieux dire, Ninis. Je ne saurais mieux dire.
Lorsqu'ils rejoignirent Mertz, le Suisse avait déjà retiré ses skis. Ils ne serviraient à rien dans un champ de sastrogie. Il s'agissait de crêtes de neige aiguës, toutes parallèles, montant au moins jusqu'aux hanches, parfois au sternum.
Le vent changeait ses dunes en glace transparente, et Mawson, en voyant leur dos lisse et bleu percer la surface poudreuse de la banquise, songeait aux ailerons des dauphins qui accompagnaient parfois les bateaux sur l'océan. Les sastrogies étaient dures comme de l'acier et rencontraient presque toujours le chemin des explorateurs de façon perpendiculaire. Les patins des traîneaux ne pouvaient les briser pour s'y faire un chemin et les passés à ski relevaient du numéro d'équilibriste. On ne pouvait tenir que sur le sommet de deux crêtes et le bois des skis pliait comme un arc puis se brisait. Il n'y avait guère que deux solutions, faire un détour ou s'y frayer un pénible chemin à pied en aidant les chiens à faire monter et descendre les traîneaux, tout en s'assurant que les cargaisons ne se renversent pas. Les sastrogies se passaient à la force des bras et les trois hommes ne le savaient que trop bien. Les heures suivantes furent éreintantes, d'autant plus que le traîneau de tête se renversa presque immédiatement. Ninis fut emporté avec lui et chuta lourdement. Les arêtes des sastrogies étaient franches, dures et coupantes, et seule l'énorme couche de vêtements des hommes en amortissait la frappe. Les chiens disposaient de leur fourrure, particulièrement épaisse pour se protéger. Mais si les coupures étaient évitées, le choc n'en était pas moins dur. Les chiens, bousculés par l'accident, sentant l'émotion et l'énervement des trois hommes, ne se retinrent plus et s'excitèrent sous leur harnais. Ils sautaient et commençaient à se mordre, frustrés de ne pas avancer et de se sentir retenus. Le chaos engendré par les bêtes renversa le second traîneau et les explorateurs ne pouvaient guère le redresser tant que les chiens donnaient leurs violentes secousses. Mertz se dégagea de la mêlée et voulut remettre ses skis. Mawson lâcha les longes des bêtes et approcha vivement du Suisse.
« Que faites-vous ?
Mertz ! Vous connaissez le caractère de ces bêtes, Mawson. Elles doivent courir. L'immensité est une provocation pour elles. Et tant qu'elles resteront prises ici sous le harnais, elles seront comme folles. Si je repars en ski, elles auront la furie de me rattraper et laisseront redresser les traîneaux.
Mertz, vous prenez le risque de briser vos skis et de vous blesser.
Mais avons-nous une autre solution ? Mawson, celle-là n'est que la mienne. Je vous écoute.
Nous pourrions les relâcher !
Cria Ninis, qui se trouvait encore au milieu des aboiements.
Leur retirer les harnais ! Nous l'avons déjà fait ! Les chiens reviennent toujours une fois qu'ils sont apaisés.
Mawson cria à son tour pour être entendu du lieutenant.
Ils reviennent presque toujours, et après plusieurs nuits. Notre voyage commence à peine. Mais autant je prendrais le risque de faire courir librement quelques bêtes, mais tout le pack, je m'y oppose. Même la moitié des chiens ne saurait nous ramener à la base.
Les chiens hurlaient, se débattaient, et les explorateurs tournèrent autour d'eux comme s'il s'agissait d'enfants fiévreux, les appelant par leur nom et tentant de les calmer par la voix. Ce fut la chienne qui sembla prendre une décision. Elle poussa un long hurlement vibrant et musculeux. En entendant cet ordre, les autres bêtes se turent peu à peu. Il fallut du temps. L'obéissance ne battait guère dans le cœur de ces créatures. Et si on avait juré que l'intelligence ne s'y trouvait pas non plus, on se serait trompé. Les chiens étaient rusés, logiques, d'une clairvoyance parfaite. Leur but, toutefois, restait difficilement compréhensible pour qui ne les connaissait pas. Ces 17-là étaient des Groenlandais. La sauvagerie de cette race ne savait mentir. Et ces chiens avaient été utilisés depuis la nuit des temps pour la chasse à l'ours polaire. Les ours faisaient 3 mètres de long pour parfois 800 kilos, et ces chiens d'à peine 30 n'hésitaient guère à s'attaquer à eux. Leur corps était assez trapu, leur tête semblable à celle des vaches, pensait souvent Mawson, lourde, dense, épaisse comme une enclume. Ils étaient faits pour la glace et l'extrême solitude du dernier continent. Chiens venus de Sibérie, ils possédaient une puissance incroyable, une volonté de brute, une endurance qui dépassait même celle des tempêtes, et un tempérament aussi sauvage que la glace elle-même. Mawson avait entendu parler de chiens ayant dévoré leurs harnais, clous et chaînes y compris, et ne doutait pas de la véracité de ces histoires. Mawson n'avait pas le sens des bêtes comme pouvaient l'avoir Ninis et Mertz, mais il devinait que les Groenlandais ne servaient pas les trois hommes, ayant un besoin viscéral de s'épuiser ou d'essayer de s'épuiser, les 17 profitaient des explorateurs qui les alourdissaient de leurs traîneaux. La chienne avait réussi à calmer les 16 autres, et elle-même, ce qui était sans doute la tâche la plus compliquée. Et les trois hommes redressèrent les traîneaux. Mawson fit « Mertz,
Montez sur le premier. Prenez une couverture pour vous asseoir sur les caisses. Vous avez ouvert le chemin tout ce matin. Vous avez travaillé pour toi. Laissez-moi prendre le relais.
Mertz hésita. Sous une apparence très calme, l'homme avait pourtant quelque chose qui le rapprochait des Groenlandais. Il désirait sentir la banquise sous ses pieds, se dresser contre le vent et sentir la morsure de la glace.
« Mertz !» argumenta Mawson. « Vous êtes fatigué et nous avons besoin de vous. Prenez soin de Ninis et de moi en prenant soin de vous-même. »
Mertz lança un long regard à Mawson, un regard aussi brun et expressif que celui de ses chiens. Et puis, il hocha la tête et, le cœur lourd, monta sur l'un des trucs. Mawson se concentra, étira ses muscles et se mit soudain à courir. Il fallait donner un objectif aux chiens, ils étaient faits pour cela et rien d'autre. Avancer, avancer encore, et en cela, Mawson les respectait profondément. Mawson courut ainsi, choisissant le chemin le plus aisé, celui où les traîneaux passeraient le mieux, là où les sastrougies étaient assez basses pour que les chiens les sautent ou les escaladent à grands coups de griffes. L'homme était dans une bulle. Le dernier continent était à la fois très clos et ouvert, jusqu'à un horizon qui semblait tonner sur l'espace même. On n'y voyait pas les distances, et la lumière y frappait d'un creux impossible à imaginer. Aucun arbre, aucune herbe, aucun animal pour troubler la vue, ni la cibler sur un objet quelconque. Rien. Rien jusqu'au ciel, ni rien non plus dans celui-ci. Et pourtant, clos, car on ne voyait cet infini qu'au travers de lunettes de bois fendues, enfoncées dans plusieurs cagoules encroûtées d'une couche de glace. Il fallait régulièrement briser cette visière, qui repoussait presque aussitôt. Les sons semblaient étrangers, eux aussi. La respiration résonnait dans les capuchons, et lorsque le vent ne hurlait pas à vous en arracher l'esprit, les sons semblaient plats, tombant des bouches et des objets. C'était une terre de secrets. On n'y voyait rien, on n'y entendait rien. Lorsque les sastrougies ne furent plus que de rares ondulations glissantes de neige, Mawson finit par ralentir. Il pensait avoir couvert 4 ou 5 kilomètres et s'étonna de cet exploit. Il s'arrêta et se retourna. Ninis, sur le traîneau de tête, leva les bras en signe de victoire et cria
« Nous parlions d'un thé, je crois. Nous l'avons bien mérité. Et quelques biscuits avec. »
Ils eurent leurs biscuits. Chaque gâteau était une épaisse tranche de biscuits faite de deux farines pures, du gluten et de la caséine, ce qui en augmentait la qualité nutritive et la résistance au choc. Ces biscuits étaient si durs que Ninis avait déjà proposé de rentrer en Angleterre sans finir l'expédition et de les proposer comme spécimen géologique. Sachant qu'ils devaient parfois être brisés au pic à glace avant d'oser y refermer les dents, l'idée pouvait être défendue sans honte. Une fois cassé, le biscuit était en général trempé dans une tasse de cacao chaud, puis enfin ramolli, ou presque, pouvait être mâché. Confronté aux longues heures d'effort et au froid terrible, les trois hommes avaient faim en permanence. Le cacao où trempaient les biscuits était un mélange de chocolat pur, de sucre blanc, d'amidon et de caséine. Rien ne semblait véritablement bon, mais le corps désirait tant se remplir de calories que le moindre apport procurait une sorte de soulagement, et chaque repas était attendu avec impatience. Mawson le savait très bien, et il avait prévu, sur les traîneaux, quelques rations spéciales pour les fêtes ou de simples encouragements. Il avait déjà vu des hommes à bout de force et de morale marcher avec un regain d'énergie une fois que le chef d'expédition leur avait juré qu'ils mangeraient dans 4 jours et ramolli dans leur thé une lanière de graisse d'éléphant de mer vieille de plusieurs semaines. Sur la glace, la nourriture était un but, un rite, et en cela, elle cristallisait tous les besoins et les désirs des explorateurs. La nourriture, elle, restait humaine. Cet après-midi-là, ils firent encore une longue route avant de s'arrêter, dresser la tente pour la nuit. Le blizzard soufflait dru. Ils n'y voyaient pas à 2 mètres devant eux. Sous l'abri, leurs vêtements posèrent le même problème que tous les soirs. La journée, à l'extérieur, il faisait bien trop froid pour que la neige fonde sur leurs manteaux et capuches. Mais cette humidité retenue se laissait aller à la chaleur et à la flamme du petit poêle Primus. Tout devenait boueux, liquide, glacé, tout s'infiltrait, et il montait du sol une touffeur pourtant glaciale.
on ne pouvait s'asseoir que dans une flaque, et rien ne savait éponger ces trous. Il n'existait plus rien de sec, et tout était une bourbe. Le lendemain matin, ils se levèrent dans une aube cristalline. L'air craquait, dur et sec comme du quartz. Il avait l'odeur de la glace bleue qui roule et dort sur la banquise. La neige était comme du sable d'un blanc pur, et si l'on prêtait l'oreille, on en entendait le chuchotis glisser, la danse légère. Même les chiens restaient silencieux et semblaient écouter ce chant minéral. Lorsque Ninis et Mertz sortirent de la tente, Mawson patientait déjà dehors. Il regardait au loin, et les deux explorateurs suivirent son regard. Devant eux, à quelque distance, se trouvait une cuvette de glace aux parois en plateau. Cette plateforme luisait dans une lumière d'un blanc bleu de pâte de verre.
« Je n'avais jamais vu cratère de ce genre, » dit Mawson.
Les deux hommes ne répondirent pas. La dépression était gigantesque, et il en émanait quelque chose du fond des âges.
« Est-ce une météorite ?»
demanda Mertz, tombée lorsque la terre était silencieuse.
« Je ne saurais dire, » répondit Mawson. « Mais si effectivement c'est une météorite qui a frappé la planète ici, sur sa tempe sud, » alors le choc a dû la faire trembler jusqu'au tropique.
Nini se sourit si largement que les deux autres le virent, malgré les capuchons et la croûte de glace recouvrant leur fourrure.
Nous étions venus cartographier la côte, Mawson. Nous sommes les premiers à venir ici. Ce cratère, aucun œil ne s'était jamais posé dessus. Vous êtes le chef d'expédition. Tout cela est votre projet. Donnez-lui un nom.
Ce fut au tour de Mawson d'hésiter.
Eh bien, je vais l'appeler le cratère.
Bon chat.
12. Lorsqu'ils sortirent enfin, la tente était enterrée sous la neige. Il leur fallut 3 heures pour dégager les chiens, et lorsqu'ils eurent fini, ils virent que l'un d'eux avait tout simplement disparu. Ils cherchèrent un sentiment quelconque sur le museau des 12 qui restait. Une honte, une gêne, un aveu. Mais il n'y avait rien que leur faim et leur nature de brute. Un silence parfait, noyé de secrets inaccessibles aux 3 hommes. Le vent s'était tu, lui aussi, et un étrange soleil montait dans le ciel, rond, blanc, sec, entouré d'un gigantesque halo où nageaient 2 autres astres, reflet à peine plus petit que le premier.
« Dans le Grand Nord, ils appellent ce mirage l'œil de bouc, » dit Mertz. « Et les Sundog, oui, » répondit Mawson, « les chiens flanquant le soleil. » »«
3 soleils pour 3 explorateurs, l'un plus grand que les autres. Il s'agit sans aucun doute du vôtre, Mawson. »
Je ne suis pas plus grand que vous, Mert, ni que Balgrave.
Ninis ne répondit rien. Il regardait au loin. Ces 3 jours passés à dormir ne l'avaient pas reposé. Devant lui s'étendait la banquise, lisse, aussi luisante que si elle était faite de miroirs. Au loin se dressait un champ de sastrogie qu'il leur faudrait bientôt traverser. Mawson approcha de Balgrave et lui prit la main. Il la pressa un instant, la souleva, puis la lâcha. Le bras de Ninis retomba, flasque. Mawson questionna le jeune homme du regard, mais celui-ci ferma les paupières. Le jeune homme était méconnaissable, et Mawson se demanda comment il avait pu ne pas le voir auparavant. Ses gencives étaient gonflées et un tic agitait tout le côté droit de son visage.
« Ninis, » fit Mawson, « vous avez mal ?»
Balgrave hésita un instant, puis dit
« Oui, monsieur, mon crâne est douloureux, c'est un fil de fer qui me traverse du front à la mâchoire, un fil de fer chauffé au rouge, mes dents aussi, elles battent avec mon sang.
Montrez-moi votre main droite, Ninis. Vous n'êtes pas plus gaucher que moi et je sais que vous nous cachez quelque chose. »
Le jeune homme regarda enfin Mawson en face. Il y avait de la honte dans ses yeux.
« Votre main, Ninis, je vous le demande !»
Belgrave retira sa moufle, son premier puis son second gant, Mawson se força à ne rien laisser paraître de son effroi. L'index de Ninis était gonflé de pu jusqu'au double de sa taille. Noir et vaine, les couleurs d'une poire dévorée par les vers. Les veines empoisonnées formaient une toile d'araignée cramoisie qui remontait jusqu'au milieu de l'avant-bras. Belgrave parla avant Mawson.
Je ne voulais pas vous inquiéter ni ajouter à vos angoisses. Je me disais que la chair craquerait bien toute seule et que le pus s'écoulerait enfin.
Mertz s'était avancé et voyait enfin la main nue de Ninis.
Belgrave, je ne sais que vous dire,
reprit le jeune homme.
Nous ne pouvons de toute façon pas faire grand-chose.
Mawson resta silencieux un instant. Si, déjà nous allons vous faire un emplâtre de neige pour calmer cette fièvre qui vous dévore. Mais ensuite nous vous opérerons.
Mertz réprima un cri. Une plaie ouverte, ici. Mawson, c'est la mort assurée.
Mawson lutta pour garder sa contenance.
Non, pas si nous prenons soin de lui.
Pas si. Ninis le coupa.
Je sais que les plaies gèlent, même sous les gants et les moufles, même protégées avec soin. Je sais que le froid ronge la moindre coupure et que la gangrène s'y loge. Je crois que si nous ne faisons rien, mon bras ne reviendra pas avec moi en Angleterre. Et si cette terre doit me dévorer, je préfère ne lui laisser que quelques doigts.
Mawson ferma les paupières. Il connaissait les risques, il connaissait les chiffres, mais il connaissait aussi Belgrave, qui lui avait confié sa sécurité et sa vie. Il faillit balbutier en reprenant la parole et s'étonna de cette émotion qui le débordait.
Parlons d'espoir et de décision. Alors, si nous marchons encore 2 jours, peut-être 3, nous pourrons laisser une grosse part de notre nourriture sous un cairn. Nous serons beaucoup plus légers, nous irons plus vite. Quelques jours, juste quelques jours ensuite. Et nous pourrons faire demi-tour. Nous aurons dépassé le premier point noté sur les cartes, Ninis. Ensuite, nous rentrons à Cap Denison.
Mawson vit Mertz, debout derrière Belgrave, secouer la tête. Il s'attendait à cette réponse de la part du Suisse. Mais c'était à Ninis de donner son avis.
Mawson reprit. Ninis, je ne vous demande rien. Mais je sais que si vous aviez pu cacher votre blessure jusqu'à ce que nous atteignions notre but, vous l'auriez fait sans hésiter. Je vous propose ceci. Continuez encore une poignée de jours, allégé, mais dépassez le dernier point sur la carte. Mon ami, ce que je vous dis, c'est que nous pouvons déjà penser au retour.
Et aux 2 glaciers qu'il nous faudra retraverser, ajouta Mertz, avant d'aussitôt baisser les yeux, honteux de son désespoir. Belgrave regarda l'horizon. Mawson se demanda encore comment il avait pu ne pas voir sa peau craquelée, ses yeux rongés, sa bouche fendue.
Ninis, opérez-moi, Mawson.
Ils s'installèrent sous la tente. Mertz et Mawson donnèrent une gorgée d'eau chaude et une cuillère d'alcool à Ninis. Ils étaient inquiets et glissaient au jeune homme des phrases qu'ils savaient sottes. Des « Ninis, ce sera douloureux ». Des « Nous ferons vite, mon ami ». Comme si Belgrave ne le savait pas déjà. Mawson se rendit compte qu'il pleurait et se demanda d'où lui venait cette peine. Il saisit que c'était son impuissance qui le blessait, la responsabilité qu'il avait de Ninis et qu'il avait trahi. Il essuya ses joues, puis plaça son couteau sur la flamme du Primus. Longtemps, avec soin. Mertz s'était placé derrière Ninis, le bras passé autour de la poitrine du jeune homme, pour le tenir. Quand Mawson fut prêt, le Suisse posa sa main sur les yeux de Belgrave.
Cela va faire mal, Ninis. Je m'en excuse par avance.
Ne vous excusez pas, monsieur.
Mawson passa le fil de sa lame sur le doigt. La peau en était si tendue et gonflée qu'elle se fendit aussitôt. Du pus gicla sur la neige, épais d'un verre strié de brun. Mawson fut étonné par la quantité de ce poison, mais il appuya sur les chairs pour en faire sortir tout ce qu'il pouvait. Belgrave était immobile, tendu comme un filin d'acier, lorsque le sang jaillit enfin, cramoisi et fumant, Mawson posa une compresse d'iodine sur la plaie. Ninis se contenta de dire
« Cela brûle, monsieur !»
Mawson noua un bandage autour du doigt mutilé. Mertz garda Ninis contre lui, lui parlant à l'oreille. Lorsque le jeune homme se détendit, à peine, ils le glissèrent dans son sac de couchage, où il se recroquevilla autant que le lui permettait l'étroitesse des coutures. Il s'endormit aussitôt, et Mawson le trouva sage de fuir ainsi la douleur qui devait lui vriller les nerfs. Soudain, Mertz éclata en sanglots. Mawson se tourna vers lui, voulant le rassurer et lui promettre que Belgrave se sentirait mieux maintenant que le poison ne le rongeait plus. Mais le Suisse ne regardait pas Ninis. Il était debout et fixait le sol. Mawson baissa les yeux, lui aussi, et vit que Mertz avait, dans un moment d'inattention, renversé le Primus, fendu le réservoir et perdu la moitié du combustible. Mertz et Mawson savaient ce qui venait de se passer. Il n'était plus question de demander à Ninis s'il voulait encore avancer. Il était question de chiffres et de rations, de possibilités de boire et de manger. Il était question de survie pure. La banquise était un désert sans oasis. Un désert d'eau, certes, mais imbuvable. Il fallait la faire fondre et pour cela, il fallait le Primus. Pire, la nourriture emportée sur les traîneaux était sèche, au point de ne pouvoir être consommé sans avoir bouilli dans de la neige fondue. Toute boisson et toute nourriture devaient être passée sur la petite flamme verte. L'expédition n'avait jamais été une gageure personnelle, et les hommes ne l'ignoraient pas. Mawson avait justement choisi ses compagnons pour cela. Il n'était pas vantard, ne plaçait pas dans ce voyage une identité virile, une preuve de masculinité. Il s'agissait d'une expédition scientifique ayant un but, payés par des fonds venus du monde entier, soutenus par des fortunes colossales, ou des travailleurs discrets se rendant à leur bureau tous les matins. Mawson se savait responsable de tout cela. Rentrer immédiatement, sans avoir dépassé le territoire connu, serait un échec, non pour lui, Mawson, mais pour la science humaine et la société tout entière. Il faillit rire de cette ironie, que les avancées les plus savantes tiennent parfois au fait de pouvoir, ou non, faire fondre une poignée de neige. Mertz.
Oui, monsieur. Nous allons laisser dormir Ninis. Vous et moi allons sortir, défaire les deux traîneaux, déposer toutes les caisses et faire le compte exact de nos réserves. Ensuite, nous prendrons notre décision. Est-ce que cela vous convient, Mertz?
Oui, monsieur.
Une fois nus, les deux traîneaux ressemblaient aux squelettes desséchés des éléphants de mer. Ils faisaient 3,50 m de long, un peu moins de 60 cm de large. Leur carcasse évoquait la légèreté des insectes, des libellules. Tout le superflu en avait été purgé. La structure n'était que deux longs patins recourbés, retenus l'un à l'autre par des arceaux de bois, semblables à ceux qui encerclaient les tonneaux et sur lesquels on avait fixé des planches. Sur cette armature se trouvaient aussi une tête et une queue. Deux coffres inamovibles, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. La première boîte contenait le Primus et son combustible. La seconde, les instruments de mesure. C'était là toute l'intimité brute des traîneaux, à peine recouverte, encore, par une forêt de courroies de cuir servant à attacher les caisses de nourriture. Mertz et Mawson étalèrent tout leur bagage sur la neige, en prenant soin de les éloigner des chiens. Ils retournèrent ensuite aux traîneaux et les examinèrent. Le premier, le plus grand et le plus lourd, celui que conduisait Ninis, avait jusque-là toujours été en tête. C'était lui qui prenait de plein fouet les arêtes de Sastrougi, qui était aussi le plus chargé. Ses patins commençaient à se fendre et se trouvaient maintenant aussi râpés que les semelles bientôt trouées. Mertz et Mawson décidèrent de le faire passer à l'arrière. Le plus petit des traîneaux ouvrirait à présent la marche. Ils en profitèrent pour réorganiser la distribution des caisses et des réserves. Si une crevasse devait s'ouvrir, elle le ferait sous les patins du traîneau de tête. Et les hommes mirent donc tout ce qui leur était vital sur celui de Ninis, les instruments de mesure, ainsi que la nourriture des chiens et des hommes. La tente et les essentiels iraient eux aussi sur le grand traîneau de queue. Lorsque les deux explorateurs finirent leur manœuvre, le traîneau de Ninis portait désormais 25 kilos de plus que la veille. Ils furent aussi un tri drastique. Ils inspectèrent chaque objet et jetèrent tout ce qui ne leur avait pas servi ou qui s'était brisé sans qu'ils puissent le réparer. Ils firent un tas de courroies déchirées, de moufles usées, de finesco troués, de vêtements fendus, ainsi que des vieux sacs de nourriture et du mât de l'un des traîneaux. Ils seraient maintenant plus légers et mieux organisés. Les décisions prises à leur départ de Cap Denison avaient été bonnes. Celles prises maintenant, sur la banquise et face aux réalités de leur expédition, meilleures encore. Ils refirent aussi les équipages de chiens. Les deux meilleurs tireurs, Basilisk et Shackleton, furent mis ensemble, malgré leur haine farouche l'un pour l'autre. Ils se disputaient non pas la place du chef, mais celle du second. Le véritable chien de tête était encore et toujours la chienne. Et même le pack entier, dans ses pires fureurs, ne s'y trompait pas et ne la provoquait jamais. Mertz fit part à Mawson de ce qu'il pensait être le mieux pour les bêtes, et Mawson se contenta de hocher la tête. Le Suisse savait tout des chiens et était bien plus compétent que lui pour prendre n'importe quelle décision à leur sujet. Une fois mis au harnais, le pack de tête comptait Basilisk, Shackleton, John Bull, Franklin, Pavlova et Castor. Ces chiens-là étaient forts, puissants, ils se nourrissaient mieux que les autres, souvent en leur volant de leur ration. Et ils sauraient tirer le traîneau de Ninis. L'autre équipage était fait des chiens déjà maigres, usés. Il s'agissait de George, Mary, Johnson, Alden et la Rouge, ainsi que de la chienne, même si elle était en meilleure santé que les 11 autres Groenlandais. Mawson conduirait ce traîneau et Mertz, sachant qu'il aimait la chienne, lui avait proposé de la garder avec lui. Mawson avait hésité, puis accepté en disant qu'elle saurait bien pousser en avant ses 5 compagnons. Les deux hommes profitèrent du sommeil de Ninis pour discuter de la nourriture des chiens. La faim avait rendu au pack son plein sang de tueurs d'ours et il fut dit que les 6 plus maigres seraient abattus au fil du voyage pour nourrir les 6 plus forts. Cette décision fut prise sans joie. Ils testèrent enfin le Primus. Il était certes fendu, mais fonctionnait encore. Assez bien, en tout cas, pour tenir son rôle. Belgrave se réveilla lorsque les deux autres fixaient la dernière caisse sur le traîneau. Un brouillard épais noyait la banquise, et Mawson fut heureux d'entendre le jeune homme sortir de la tente pour dire « Cette brume n'est pas aussi terrible que celle de Londres !» « Comment va votre main, Belgrave ?»«
Mieux. Elle fait mal, mais cela n'a rien à voir avec ce qui me dévorait hier encore. »«
Ninis, nous avons réorganisé les traîneaux. Vous conduirez en queue, dorénavant. Vous aurez moins à faire, et vous pourrez vous reposer. Mertz s'ouvrira la route, et quant à moi, je vous flanquerai, Vaski. »
Ils glissèrent avec aisance. La glace était lisse, belle, et les trois hommes suivirent une pente douce qui rejoignait un horizon d'un blanc pur, débouchant sur une anse de mer où flottaient des îles de glace, des bergs figés sur un océan immobile. Mawson filait en avant des traîneaux. Mertz le suivait, conduisant les chiens les plus fatigués, le traîneau le plus léger. Plus loin encore, Ninis tenait le bon pack. Il était recroquevillé sous ses couvertures, mais semblait parfaitement éveillé, remis, heureux d'avoir repris la route. Il fit un signe de main à Mawson, qui le lui rendit. Mawson était fier de ses compagnons, de leur courage, de leur volonté tendre. Il regarda le ciel et soudain, il entendit un jappement, un seul. Il se tourna et vit que le traîneau de Ninis avait disparu.
Mawson voulait 25 km par jour. Il les désirait, les chantait dans son esprit, comme une comptine. 25. Lui qui n'avait jamais cru à la magie, se demandait à présent si ses mathématiques et toute sa science n'en étaient pas. Une puissance logique, certes, mais semblable aux prières de l'époque des grottes peintes. Quelque chose à opposer aux forces chaotiques du monde, à sa puissance, à son entropie. Parfois,
Ses pensées lui échappaient et il imaginait Ninis passant à quelques centimètres du gouffre, aux caisses de nourriture fixées sur le traîneau de tête au lieu de celui de queue, au bon chien tombé dans la crevasse qu'un choix à peine différent aurait pu faire vivre à la place de leurs congénères les plus épuisés. Ces songes éveillés, vécus sous le harnais de Georges, n'avaient rien d'angoissant. Ils étaient la simple démonstration que les choses auraient pu être résolument différentes. Mawson se demandait s'il avait fait des erreurs, s'il aurait pu prendre d'autres décisions, s'il avait manqué de discernement. Parfois, il pensait que oui, parfois il pensait que non, et ces deux réponses semblaient aussi justes l'une que l'autre. Les hommes trébuchaient dans la neige, glissaient, tombaient, ils étaient épuisés, au point de ne plus savoir où ils se trouvaient, ni quel était le chemin à suivre. Ils devaient s'arrêter, souvent, et parler pour reprendre réellement conscience du but à atteindre. Ils marchaient 12 heures par jour. Mertz, lors d'une de ses pauses qui n'en était pas, dit « Nous sommes au-delà de la volonté, Mawson. » Un rideau de neige les entourait, leur bouchait la vue. Les hommes ne se guidaient que grâce au profil des sastrogies. Leurs collines aiguisées sillonnaient tout le continent, mais les plus vieilles, les plus hautes, allaient toujours vers le sud, comme si le blizzard blessait la glace et y traçait des plaies que rien ne savait soigner. Mertz avait rangé ses skis sur le traîneau et aidait Mawson à tirer la charge. Il avait noué une sous-veste sur son bonnet afin de tenter de garder la chaleur de son capuchon trempé. Mawson portait un bandeau sur son œil brûlé. La blessure ne passait pas, et il ne s'en étonnait guère. Avec quelle énergie, quelle ressource ! Son corps était au bout de ses forces. Il n'avait plus rien à donner à sa rétine mutilée. Le corps de Mawson jugeait son propre œil dispensable, et l'homme partageait cette opinion. Le Suisse avait déjà glissé 5 tablettes sous sa paupière, mais elle refusait obstinément de dégonfler. Il s'était inventé une petite chanson, toute simple, sans notes, un simple échange qui était toujours le même. Mertz demandait quand ils allaient manger, et Mawson répondait « Bientôt ». Alors ils avançaient, plus loin, encore un peu, et Mertz se faisait patient. Et la chanson recommençait. Ils n'avaient guère la force de dire plus que cela, mais avaient besoin de s'entendre. Le temps leur manquait trop cruellement pour trouver celui de boire. Il aurait fallu faire fondre de la glace. Et pour faire fondre la glace, il aurait fallu allumer le Primus. Et pour allumer le Primus, il aurait fallu monter la tente de fortune. Et monter la tente aurait pris plusieurs heures. À croire que la soif, elle aussi, avait inventé sa propre petite chanson répétitive. Leurs lèvres étaient desséchées, les muqueuses de leurs narines à vif. La nourriture les omnubilait. Ils en avaient des visions. Ils se promirent un repas de houche, de beurre, de thé et de chocolat tous les 7 jours. Mertz parla de la viande de chien. « Elle ne semble pas nourrir. Le ventre n'en est pas plus plein et nous passons plus de temps à genoux que debout. Nous marchons comme des hommes sous et nous tombons plus souvent qu'eux. »« Peut-être était-ce Georges, » répondit Mawson. « Peut-être que les autres sauront mieux nous satisfaire. » Ce fut Johnson qui se coucha sur la neige. Il ne lutta pas. Il était incapable de se remettre sur ses pattes, et les deux hommes le prirent dans leurs bras pour le poser sur le traîneau. Ils n'eurent pas besoin de défaire son harnais. Les bêtes étaient si maigres que les courroies leur glissaient du poitrail. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, les compagnons donnèrent un peu de viande de chien à Johnson, mais il n'eut pas la force de la manger. Il la lécha lentement, et ni Mawson ni Mertz n'eut besoin d'en dire plus. Ils auraient été prêts à le laisser se reposer quelques heures, une journée, pour profiter ensuite de la force du Groenlandais remis au traîneau. Mais lorsque ces bêtes ne mangeaient plus, n'en avaient même plus le désir, c'est que tout était fini. Ce fut le Suisse qui, cette fois, prit le fusil. Ce fut un peu plus facile que pour Georges, même si les rations avaient été plus nombreuses. L'animal n'aurait pas pu continuer le voyage. Johnson avait toujours été une gentille bête, loyale et travailleuse. Les hommes furent attristés de sa mort. Ils tentèrent de découper sa viande en lamelles avant de la faire bouillir dans l'eau et d'y ajouter quelques pincées de pemmican. Le repas les laissa affamés. Les chiens dévorèrent la carcasse, arrachant les tendons et les cartilages, déchirant la peau, broyant le crâne. Mawson se surprit à se demander s'il les enviait de prendre plaisir à ce repas. Lorsqu'il vit la chienne, gober les dents nues de Johnson tombées dans la neige, il estima que non. Ils gardèrent de côté le peu de chair qu'ils tirèrent de Johnson, en prévision des jours à venir. Lui et George leur avaient fait songer à des noix moisies, une coquille dure, ne refermant presque plus rien. Seul le foie restait charnu, luisant, dans un corps asséché par le jeûne. Mertz fut pris de nausée. Le dégoût de cette viande lui tordait le ventre, et Mawson décida qu'il donnerait le foie aux Suisses. La viande était plus tendre et portait moins l'odeur du chien. Le lendemain, ils marchèrent pendant 12 heures et demie.
Oh non.
Il faut pas t'arrêter. Il faut continuer à avancer. Tu comprends? Si on s'arrête, on meurt. Écoute-moi. Si tu cours pas, tu vas mourir.
Deux. Les chiens ne tiraient plus. Ils avançaient, mais leurs longes pendaient, molles, et frottaient contre la neige. Seule la chienne donnait ce qui restait de sa force pour faire glisser le traîneau, et les deux hommes l'accompagnaient. La faim et la soif creusaient l'intérieur du nez de Mawson et de Mertz. La chair en était fendue. Chez tous deux, des crevasses creusaient le nez et la commissure des lèvres. Mawson sentait, dans sa bouche, des filaments de muqueuse morte qu'il tentait de décoller avec sa langue. Il y occupait son esprit, tâtant, frottant, mordant les morceaux de chair. Son œil n'allait pas mieux. Il parlait de la viande des chiens et imaginait comment la cuisiner pour la rendre non pas savoureuse, ils en avaient abandonné l'idée, mais mangeable. Leur estomac leur faisait mal et ils marchaient penchés sur le côté. L'un imaginait du sel, rien que du sel, et l'autre quelques gouttes de beurre. Le luxe avait quitté leur corps comme la chair avait disparu de celui des Groenlandais. Mawson entendit un jappement de terreur. Il eut l'impression de s'éveiller d'un rêve fiévreux, lentement, pataudement. Il cligna des yeux, chercha à comprendre ce qui était pourtant évident, et, se retournant, vit que la place de Alden était vide. Le chien avait glissé dans une crevasse, et à en croire la tension dans la courroie, pendait au bout de sa longe. Mawson se dégagea de son propre harnais et avança vers la faille. Son corps refusa de courir. Alden se trouvait dans la crevasse et la terreur semblait lui avoir redonné quelques maigres forces. Il se débattait et leva les yeux sur Mawson. L'homme saisit les longes et tira lentement la bête vers lui. Il était incapable de faire plus vite. La tête du Groenlandais émergeait à peine qu'Alden se mit à glisser hors des courroies. Son corps maigre ne remplissait plus le harnais. Il fixa Mawson et celui-ci rendit son regard. L'homme griffa la peau du chien pour tenter d'y trouver une prise, et ses doigts se refermèrent sur la crinière de l'animal. Mawson mit toutes ses dernières forces dans ce geste et parvint à remonter la bête. Mertz arrivait enfin, et Alden rampa pour se glisser entre les jambes du Suisse. Mawson regarda son compagnon et murmura : un tiers de nos rations, Mertz. Un tiers. Lorsqu'ils repartirent, Mary refusa de se lever. Il la fit remonter dans le traîneau. La banquise semblait promettre une descente, et les hommes en furent heureux. Le terrain avait été rincé par les vents, et on n'y voyait aucune neige fraîchement tombée. Les astrogies étaient hautes, dures, comme de la pierre, et l'équipage glissait, chutait, s'enfonçait entre les parois des murs de glace.
« Nous ne pouvons pas continuer ainsi, » fit Mawson. « Personne ne le pourrait !»
Ils décidèrent de monter le camp, puis d'attendre que le jour se lève et chasse la lumière glauque qui baignait la glace. Mawson tenait son carnet de route à jour et constatait qu'ils avançaient bien. Il aurait voulu faire plus, faire mieux, mais il savait que l'équipage en était incapable. Ils firent cuire Mary et Mertz mangea une grosse part de son foie. Il grimaçait moins et son estomac semblait mieux accepter là-bas que la chair musculeuse des animaux. Sa nausée, pourtant, était toujours présente. La descente promise s'ouvrit enfin devant eux. La marche fut plus aisée. Alden ne semblait pas s'être remis de sa chute et les hommes le firent monter sur le traîneau dans l'espoir qu'il y reprenne quelque force. Soudain, un grand pan de brume se dissipa et ils virent ce qui les attendait. Ils avaient véritablement quitté le glacier assassin, mais la plaine, devant eux, était fendue de centaines de crevasses. Mawson en fut étonnamment content.
« Au moins, merde, nous sommes certains d'être sur le bon chemin. Ces failles sont une meilleure nouvelle qu'un paysage inconnu. »
Ils tentèrent de nourrir Alden, mais il se contenta de lécher la viande, tout comme l'avait fait Johnson. Les hommes surent que la bête était perdue. Malgré leur épuisement et leur maigreur, les animaux restants semblaient être pris de frénésie dès qu'on les harnachait. Leur force les quittait au bout de quelques pas, mais ils étaient dangereux durant ces quelques moments. Mawson et Mertz craignaient qu'ils leur échappent et se précipitent sur les rations, sur les patins du traîneau ou peut-être sur eux-mêmes. Le 21 décembre fut une journée triste. Alden fut tué. L'équipage ne put franchir que 17 kilomètres. Mawson vit le mirage de l'île Dixon flotter sur l'horizon, comme une moquerie. Ils parlèrent du repas du lendemain, le repas des 7 jours de la mort de Ninis. Ils mangèrent Alden. Son corps était extrêmement osseux, mais son foie restait dense et Mertz s'en nourrit. La température avait chuté brusquement et Mawson se rendit compte que le compteur de distance du traîneau avait gelé. Il tenta de le désengager de sa gangue de glace et l'appareil se brisa. Il faisait moins 31 degrés. La rouge trébuchait sans cesse et Mertz avait si mal au ventre qu'il se pliait en deux. Mawson décida de monter le camp. Il ne pouvait continuer ainsi. La glace rongeait les montants de la tente de fortune et l'un d'eux se brisa. Les deux hommes ne purent monter l'abri. Ils se blottirent sur le traîneau, recouverts par la simple toile de laine. Ils prirent les chiens avec eux sous le tissu. L'Antarctique vivait son plein été.
Quoi, mes bons amis ? Lequel d'entre vous craint la glace ? S'il y en a un qui ne se sent pas d'humeur d'être de ce combat, celui-là peut partir, nous sommes assez nombreux. Moi, je ne veux pas mourir près d'un chien qui craint de mourir en ma compagnie. Les deux chiens oublient, mais ils se souviendront avec orgueil des exploits qui ont été les leurs ce jour-là. Et alors, nos noms seront aussi familiers dans leur bouche que ceux de leur propre famille. Le magnifique en tête, ces noms retentiront fraîchement au soc des coupes écumantes. Et les chiens de Dôme qui reposent au chaud en ce moment se tiendront pour maudits de ne pas s'être trouvés ici. Avec nous, quand ils entendront parler de l'un de ceux qui ont combattu en ce jour de tempête. Courez, mes champions! Courez! La prochaine fois que je me trompe de route, désobéis-moi. Vous êtes mes champions!
C'est la fin de cette émission de Bouquin Bouquine, à retrouver évidemment partout en podcast. Ce mois-ci, c'était la découverte de ce tempétueux roman de Justine Niaugré, Quand on eut mangé le dernier chien, aux éditions Au Diable Vauvert. Récit désespéré de cette expédition tragique, une écriture et une histoire haletantes et poignantes. J'en parlais au début de cette émission, le chapitrage si particulier avec ce décompte des chiens restants et de ces hommes qui, pour survivre, ont été obligés de se nourrir de leurs bêtes. Ainsi, les derniers chapitres ne sont plus intitulés « Blanc au-dessus du texte comme cette banquise hostile ». Je voulais, avant que l'on se quitte, vous lire cette note de l'auteur. L'histoire écrite ici est-elle vraie ? Oui. L'histoire écrite ici est-elle vraie jusque dans les moindres détails ? Non. Ce récit est un récit d'héroïsme, profond, humain, chaleureux. Du moins, il tente de l'être. Il nous a semblé que l'important était là. Ce récit est un récit d'ascèse et, tout comme Mawson l'a fait de son pactage, nous avons mis de côté tout ce qui pouvait l'alourdir. La volonté de Mawson, son amitié pour ses deux compagnons, ont la rigueur d'une lame de couteau. il nous a semblé que l'affûter n'était pas hors de propos, bien au contraire. Ce récit est le fruit de plusieurs années de travail strict. Si l'on y décèle une inexactitude, qu'on la pardonne au mieux. Il se voudrait le serviteur de cet héroïsme, et, comme tout serviteur, il oublie parfois les défauts, légers, de ce qu'il veut mettre en valeur. Qu'on lui pardonne aussi cette indulgence. J'espère vous avoir fait frémir de froid, d'émotion ou d'errance. Bouquin Bouquine, tous les derniers mardis de chaque mois, 22h sur Graffiti. À très vite. D'ici là, bon courage, bonne lecture. Ciao.